vagabonde.
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 Bonjour à tous. Ici César pour une nouvelle émission sur la poésie en compagnie de Hélène.
Bonjour à toi.
Une nouvelle émission sur la poésie. Chers auditeurs, nous allons commencer cette série d'émissions avec une histoire de la poésie. Et nous avons décidé d'appeler cette émission Vagabonde. Je ne suis ni historien, ni philologue, ni professeur de lettres, mais je vais esquisser avec vous cette histoire. Pas chronologique, pas thématique, mais vagabonde, comme nous venons de le dire. Cet art est aussi vieux que la parole, il est à l'origine de notre familiarité avec le langage dans toutes les langues. Cette histoire va s'apparenter à un cheminement bohème de la poésie en m'égarant par-ci, par-là, sur des sentiers escarpés, des voies sans issue et des canaux paisibles et lumineux. Puisque nous avons parlé de canal, Hélène Debar va vous lire un extrait de son texte « L'esprit du canal », texte qui vient d'être publié en partie dans une revue nommée « La revue littéraire ». Donc, honneur à elle pour lancer cette série d'émissions.
Pesanteur. Le petit index sale de la sorcière a pointé son ongle crochu vers les lèvres du ciel. Babil du corbeau nu, étincelle garance d'un cœur ivre. Le toit, les racines de toit, et pourquoi pas la mer? Nudité absoute? Hélas non. Rythme barbare, altération, le mineur s'impose. Une longue transhumance commence. Altération, rythme, plasmodie, écœurement des pleurs, l'incarnat de la piqûre d'abeille. Il faut partir. Les ballots de haillons accrochés un peu partout, même au ciel, il ne manquait que cela. Les petites misères sales qui obscurcissent les yeux, même en dedans. Le repos de l'intouchable ne viendra-t-il que dans la mort? Entends le cri alourdi des chimères. Le signe est passé. Il est un peu tard. Il est un peu tôt. Cette poupée-là sur le dos, elle caquette comme une vieille poule. Hélas, hélas oui, la vieillesse a ce regard d'innocence en soi. Svelte, comme un gigolo, et si petit, mais beau comme poussé, le mettre dans la poche et partir en voyage. Tous les baluchons restent inertes et à terre, plus rien ne semble. Il n'y aura pas la mer, non, le canal. Une roulotte d'eau pleine à ras-bord de seins blancs égorgés de sève, de sang, de lait. L'espérance des mourants. Mort à 20 ans pour des guerres de vieillards chenus, ce mineur-là ne peut être contenu dans l'impromptu, cela racle trop l'espérance jusqu'au fond, la profondeur dissoute, les billes de charbon et le lait qui dévale. Ah, elle est belle la France! Les hommes d'armes asphyxiés par la crinière des chevaux, rongés jusqu'au cœur et encore. En ont-ils un cœur? C'est le cœur d'un bœuf que l'on a greffé dans leur poitrine pour le silence et le repos. Poussé dans ma poche, je voudrais bien sortir et prendre l'air, un peu. Homme d'airain à la poupe harangue la foule. Il traverse le paysage comme si de rien n'était. Je triture le petit homme qui n'est plus qu'un petit caillou dans ma poche. Il faudrait le jeter par-dessus bord. Je ne le fais pas.
Voilà, c'était un poème de Hélène Debar, publié dans la revue littéraire qui a pour titre « L'esprit du canal ». Puisqu'on vogue en compagnie de la poésie sur notre canal, restons-y avec Charles Baudelaire, 1821-1867, l'invitation au voyage.
L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés, de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois, sur ces canaux, dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière. D'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Charles Baudelaire.
Radio Vassivière.
Vagabonde.
Pourquoi la poésie et pas la littérature? Parce que la poésie est marginale dans le système d'échange qui abreuve nos contemporains, parce qu'elle échappe à la spécialisation et à l'expertise, et aussi parce qu'un poète qui sait manier le langage mieux que quiconque n'est ni un rhéteur, ni un scénariste, ni un prosateur. Son domaine, c'est le grain de sable. Oui, le grain de sable qui grippe le rouage, qui brille de mille feux dans la lumière aveuglante, qui se fond dans le tas de sable, qui se laisse emporter par le vent du désert, mais qui, une fois dans la paume de la main, ne ressemble à aucun autre, et nous invite à partager son histoire, son voyage, son modelé. Bref, c'est le grain de sable qui fait l'excellence du poème, qui s'immisce volontiers dans une pièce de théâtre, qui rebondit sur les intrigues du conte, qui scelle l'amitié de ceux qui partagent cette passion, la poésie. Alors, écoutons. D'abord, un poème écrit par une femme, une flamme d'amour, Louise Labbé, 1524-1566, dite la belle cordelière.
Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre, plus chaud que braise. Là, te plains-tu, ça, que ce mal j'apaise, et t'en donnant 10 autres doucereux? Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Leur double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie. Toujours suis mal, vivant discrètement, et je ne puis donner consentement si hors de moi ne fait quelque saillie. Louise Labbé.
Pourquoi ce poème chaud comme la braise? Parce qu'à l'origine, la poésie a permis d'exprimer et de faire partager les deux émotions les plus fortes de l'âme humaine, l'amour et le désespoir face à la mort d'un être cher. Voyons ce que Victor Hugo, 1802-1885, a écrit pour la mort de sa fille Léopoldine alors qu'il séjournait à l'autre bout de la France. Un poème sans titre, qu'on appelle par son premier vers « Demain dès l'aube ».
Demain, dès l'aube, À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Victor Hugo.
J'ai dit que le domaine de la poésie, c'est le grain de sable. Non pas le sable en tant que roche meuble, mais le grain de sable, ce minuscule caillou que nous, poètes, regardons comme si c'était de l'or. Voyons du côté du conte comment il met en valeur la narration. Si vous essayez de voir une fée en plein jour, en pleine lumière, en plein midi, ça ne marche pas. Les fées, on les surprend, parfois à l'aube, entre deux lumières émergeant de la brume ou sous la pleine lune. Tel est le début de la légende de Persine et Mélusine. Alors, continuons dans le conte avec... Hélène.
Le petit bonhomme haut comme trois pommes. Il s'est avancé vers la grande lumière. Il y avait un arbre gigantesque et au pied de cet arbre, il y avait le roi des bêtes, assis sur cette fourrure de bête. Mais le roi des bêtes, il n'est pas fait comme nous. Il n'a pas un visage avec deux yeux, un nez et une bouche. Le roi des bêtes, il a un museau tout rouge avec des milliards d'yeux qui lui permettent de voir dans tous les coins et les recoins. Et puis, le roi des bêtes, il n'a pas des mains comme nous. À la place, il a des feuilles de bardane. C'est une plante qui pousse partout par là-bas. Et puis, ses pieds, au roi des bêtes, vous ne pouvez pas les voir puisqu'elles sont enracinées dans la terre. Et tout autour du roi des bêtes, il y a des bêtes. Il y a un animal de chaque espèce qui existe depuis la création du monde. Il y a une puce. Et à côté, il y a un diplodocus, il y a un ver de terre, et puis un dromadaire, une poule, un chat, un chien, un crapaud, une punaise. Tous les animaux de la terre sont là, un par un, autour du roi des bêtes. Et lui, le petit bonhomme haut comme trois pommes, il est en train de marcher à travers toutes ses pattes de bête. Mais le roi des bêtes, il y a longtemps qu'il l'a vu arriver avec ses milliards d'yeux. Seulement, il a attendu que le petit bonhomme haut comme trois pommes soit là, juste devant lui. C'est un conte qui s'appelle « Le petit bonhomme haut comme trois pommes » de Gigi Bigot, qu'on peut trouver chez Paroles de conteur. Radio Vassivière.
Vagabonde. Par ces quelques citations, nous constatons aisément que la poésie se marie au conte et que, comme dans les vers suivants d'Henri Michaud, 1899-1984, le conte agrémente la poésie. « Papa fait tousser la baleine », dit l'enfant confiant. Le Tibétain, sans répondre, sortit sa trompe à appeler l'orage et nous fûmes copieusement mouillés sous de grands éclairs. Si la feuille chantait, elle tromperait l'oiseau. On est dans la veine du conte, on y reste avec le grand combat d'Henri Michaud.
Le grand combat, il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son dral. Il le pratelle et le libuque et lui baroufle les ouillets. Il le tocarde et le marmine, le manage rap à riz et riz par rat. Enfin, il l'écorcobalise. L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'en margine, mais en vain. Le cerveau tombe, qui a tant roulé, à bras, à bras, à bras. Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, 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 dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégère alentour qui pleurait dans vos mouchoirs, on s'étonne, on s'étonne, on s'étonne, et on vous regarde, on cherche aussi, nous autres, le grand secret.
La prochaine fois, nous irons voir comment la poésie s'est faite adopter par le théâtre et nous attarderons sur la période classique. Aujourd'hui, nous avons commencé cette émission en empruntant un canal. Terminons sur cette même voie, toujours en compagnie d'Henri Michaud.
J'ai tracé dans ma vie un grand canal. À force de peine, de vaines montées, à force d'être rejeté du dehors, des dehors que je m'étais promis d'atteindre, à force de dérouler un peu partout, j'ai tracé dans ma vie un canal profond. J'y retombe plutôt que je ne le retrouve. Maintenant, il m'émeut. Il en est venu à m'émouvoir, quoiqu'il ne m'éclaire, ni ne m'aide, ni ne me satisfasse. Loin de là, il me rappelle plutôt l'authentique limite qu'il ne m'est pas donné de franchir, sauf par instant. Ainsi, par son durable je ne sais quoi, il me confirme dans une continuité que je n'eusse jamais espérée, que je suis seule à me connaître et que je n'apprécie point. J'y vogue, à la dérobée. Henri Michaud.